Donc, vous vous êtes installé au bout de 6 mois de bar, globalement. Oui. Comment ça se passe, cette installation? Et déjà, est-ce que vous étiez inquiet quand vous vous êtes installé? Si jeune, on va dire, si tôt?
Alors, déjà, au moment où je donne mon préavis, j'ai cette petite inquiétude. Petite, parce que ça fait encore une fois pas partie de ma personnalité d'être inquiet. J'essaye de me poser les bonnes questions, j'essaye. Donc là, oui, on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance tout de suite ou est-ce que je tente une nouvelle collaboration? Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, j'ai cette expérience-là, elle vaut ce qu'elle vaut. Je lui dis, il y a peu de chances que j'ai la même, mais on va pas tenter le diable. Donc je me lance. Je commence à regarder des locaux, on commence à se dire, il va y avoir des charges. Est-ce que je vais pouvoir faire face à ces charges-là? Parce que finalement, quand on est collaborateur, je dis pas que c'est facile, mais cet argent qui rentre, qui découle de nos dossiers personnels, ne vient pas combler des charges, en tout cas pas les charges liées au fonctionnement d'un cabinet. Et je discute avec des confrères, et qui me disent « Non mais t'inquiète pas, tu vas voir, quand tu vas t'installer, ça va venir tout seul. » Alors je me dis « On prend pour quelqu'un d'autre quand même, parce que je vois pas comment ça pourrait venir tout seul. » Et finalement si. Je m'installe dans un immeuble où les voisins commencent à dire « Ah, vous êtes avocat, j'aurai besoin de vous. » Et ainsi de suite. Donc, finalement, cette petite inquiétude au moment où je dépose mon préavis pour la collaboration, pour la fin de la collaboration, va se dissiper très vite. Un, parce que des confrères me rassurent. Deux, parce qu'une fois que je pose ma plaque, je me rends compte qu'effectivement, ben, les clients arrivent. Et puis, je deviens chef d'entreprise aussi, parce qu'on n'en a pas forcément conscience quand on est collaborateur alors qu'on l'est déjà. Et je me dis, mais au-delà du fait que les clients vont venir peut-être d'eux-mêmes, il va falloir aussi que je réfléchisse en termes de communication. Comment communiquer, sur quoi communiquer, etc. etc.
Et comment vous avez fait, vous, du coup?
Alors, première chose que je me suis dit, je veux une identité. C'est-à-dire que je regardais la plupart des sites internet des confrères, et à l'époque, tous les confrères n'avaient pas de site internet. Et il y avait souvent ce rapport blanc, rouge, le rouge, je sais pas si c'était en référence au Côte d'Alose ou autre, mais bon, il y avait souvent ces couleurs-là, et je me suis dit, moi, je veux une identité, même sur ma carte de visite. Et j'ai un nom qui facilite les choses, en termes de couleurs. Puisque d'orange, je me suis dit, ben tiens, pour que ça reste, je vais être sur l'orange. Le noir comme la robe d'avocat. Et j'ai commencé à me dire, voilà, j'ai une identité. Cette identité visuelle. Et après, j'ai dit, il faut que je communique. Mais une vraie communication. Par exemple, sur les honoraires, pas simplement rappeler les principes pour la détermination des honoraires, mais qu'est-ce que recherche le justiciable? Donc, je vais pas développer un certain nombre de compétences que je n'ai pas. J'ai peut-être renoncé à certains dossiers, mais de toute façon, je n'ai pas la compétence pour pouvoir les traiter convenablement. Et je vais pouvoir écrire. Donc j'ai commencé à rédiger des articles de blog, etc., etc. J'étais pas sur les réseaux sociaux, en tout cas pas d'un point de vue professionnel à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer mon identité. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette identité?
Qu'est-ce que vous aviez gardé comme expertise? Vous dites j'ai élagué. Il y a toutes les choses sur lesquelles de toute façon je prendrai pas de dossier. J'en ai pas parlé. Qu'est-ce que vous avez gardé?
J'ai gardé l'indemnisation. Alors indemnisation au sens large à l'époque, c'est-à-dire le dommage corporel. Enfin, le contentieux du dommage corporel, le droit pénal et le contentieux du travail. Donc le droit du travail, mais vraiment la partie contentieux, pas conseil. En tout cas, c'est comme ça que je communiquais dessus. Et après, on se rend bien compte que si on fait du contentieux, ça doit servir à titre de conseil. Parce qu'on a cette expertise de dire, ben voilà, ça va servir pour plus tard, ou devant telle juridiction, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et donc on peut conseiller en amont. Mais à l'époque, voilà, c'était mes trois domaines de compétences.
Et justement, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que rapidement, on va dire, vous avez vu que sur ces trois propositions, indemnisation du dommage corporel, droit pénal et droit du travail, contentieux du travail, il y en avait un qui a tout de suite pris le dessus? Est-ce que ça a été plus une histoire d'appétence? Comment est-ce que ça a évolué et comment est-ce que vous avez fait évoluer aussi ce positionnement?
Alors, de mon point de vue, il y a deux matières pour lesquelles on a limite. Alors, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais on a limite pas besoin de communiquer, parce que naturellement, les justiciables, quand ils voient avocat, ils se disent « il doit traiter de ce contentieux-là ». C'est le droit de la famille, donc en matière de divorce, garde d'enfants, et en matière de droit du travail, en matière de licenciement, d'harcèlement. De manière assez naturelle, les personnes, lorsque vous dites que vous êtes avocat, il y a « je connais quelqu'un » ou « moi-même, j'ai cette difficulté-là ». Donc, j'avais un certain nombre de dossiers en droit du travail. Indemnisation, j'en avais aussi, que ça soit sur de la responsabilité médicale, que ce soit sur des accidents de la route, que ce soit des parties civiles, donc le volet pénal. Donc ça, il y avait ces dossiers-là. Et puis, il y avait le pénal. qui venait de plus en plus, parce qu'encore une fois, c'est la matière dans laquelle on plaide le plus, ou voire la seule dans laquelle on plaide encore vraiment, et les gens assistent, etc., etc. Et puis, j'avais cette appétence, et j'ai la prétention de dire que j'avais un début de compétence là-dessus. Donc ça a commencé à bien se développer le pénal, un peu plus que les deux autres. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui me donne le plus de plaisir ? Parce que cette notion de plaisir, d'équilibre, etc., ces notions-là, elles sont fondamentales pour moi dans ma vie de tous les jours. Eh bien, la réponse est arrivée assez rapidement, c'est le pénal. Et je me suis dit, au moment où je savais que j'allais m'installer à La Rochelle, et si je passais la spécialisation ? Et la seule spécialisation qui pouvait m'intéresser, c'était celle en droit pénal. Et naturellement, une fois que j'ai eu le certificat de spécialisation en droit pénal, ben j'ai consacré l'intégralité de mon activité au droit pénal.
Au bout de combien de temps est-ce que vous êtes parti à La Rochelle ?
Au bout de combien de temps ? De vie ou...
Pardon, après avoir prêté serment.
Ah, ben là, ça fait 4 ans que je suis à La Rochelle et ça fait 12 ans que je suis avocat.
Oui, donc 8 ans.
8 ans.
Et c'est ce recentrage de votre activité autour du droit pénal, ça s'est vraiment fait concomitamment au passage de la spécialité ou vous l'aviez déjà amorcé avant ?
Non, je l'avais déjà amorcé. Ouais. Je l'avais déjà amorcé et je me souviens lorsque j'ai passé cet examen pour avoir la spécialisation, cet entretien, parce que c'est pas véritablement un examen de connaissances, on m'a posé la question de savoir pourquoi je voulais être spécialiste. Évidemment, c'est pas pour l'ego, même si ça fait quand même plaisir. Mais c'est surtout, je me dis, voilà, comme je veux consacrer mon activité qu'à cette matière, et que j'ai souvent l'habitude de dire le pénal au pénaliste, et ça plaît pas, mais c'est une des matières pour lesquelles n'importe quel avocat se dit, je peux essayer, j'y vais, bon, il n'y a pas besoin de compétences, je vais tenter. Et je me dis, vraiment, pour se démarquer, pour dire véritablement, je fais ça, a priori, j'ai les connaissances et les compétences pour le faire, il me faut ce certificat de spécialisation. Je ne veux pas qu'on interprète mal mes propos. Hein. Il y a de très bons pénalistes qui n'ont pas le certificat. Je dis simplement que moi, j'avais déjà cette idée de consacrer mon activité qu'au droit pénal, et c'est pour ça que j'ai passé à la spécialisation.
Non, mais c'est aussi assez... Enfin, moi, je trouve que c'est entretenu de manière assez structurelle dans la profession, parce qu'il y a un certain nombre de barreaux dans lesquels les permanences pénales sont obligatoires pour tous les avocats, quand bien même... ce soit pas leur sujet et que eux-mêmes disent mais je ne suis pas compétent en droit pénal et donc je ne suis pas la bonne personne. Enfin, je me souviens de cette discussion avec Sabine Villermoz qui est une invitée du podcast de il y a un moment maintenant qui est au barreau de Sens dans Lyon et qui fait exclusivement du droit des affaires, droit des sociétés, droit commercial. Elle a essayé de se dépatouiller de, enfin ça a été un sujet quoi, ouais. de dire mais en fait non, enfin pas, c'est je suis pas la bonne personne pour aller en permanence et pour faire tout ça. Et je, enfin voilà, je trouve ça presque étrange pour une profession qui a la compétence dans ses principes déontologiques et qui en plus est si fait tout un, voilà, fait un peu tout un foin de ces histoires de spécialité, de ce qu'on peut dire qu'on fait, etc., etc. Et pour le coup sur le pénal, comme s'il y avait une sorte de, voilà, de zone franche où tout le monde pouvait venir et s'occuper d'un gardé à vue comme ça, comme s'il n'y avait pas des spécificités. Donc non, moi je comprends votre point. Et pourquoi est-ce que ça s'est fait du coup ce passage de la spécialité au moment du départ à La Rochelle, si déjà ça faisait un moment que vous aviez recentré votre activité ?
Alors, ça c'est maintenant quand je raconte l'histoire, que je dis voilà, ça se fait au moment de La Rochelle. Je passe l'examen, enfin encore une fois, l'entretien pour être spécialiste en droit pénal en décembre, le 3 décembre 2019. Je vais arriver à La Rochelle en janvier 2020. Mais quand j'ai déposé mon dossier pour être spécialiste, je l'ai déposé des mois avant, ouais. Au moment où La Rochelle n'était même pas en projet.
Ok.
Donc ça s'est fait à ce moment-là parce que je savais que, enfin, ça me traversait un peu l'esprit d'être spécialiste et j'ai un confrère qui a passé, alors qu'on a prêté serment au même moment, on était à l'école ensemble, qui a passé la spécialisation en droit de l'immobilier. Et je lui dis, je me vois encore lui dire, mais déjà ? Il me dit, mais non, pourquoi déjà ? Au niveau des textes,
c'est
j'ai l'ancienneté.
Ans, ouais.
C'est 4 ans.
4 ans, ouais.
Et puis, je me sentais capable et je lui dis, mais qu'est-ce que ça va t'apporter ? Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment, ça se vérifie pas en droit pénal, mais en droit du travail, en droit de l'immobilier et pour d'autres matières aussi. Quand on est spécialiste, on peut répondre à des appels d'offres, on a une certaine clientèle qui vient vous voir, etc. Et je me suis dit, bon, ben, je vais aussi déposer mon dossier. Et j'ai déposé mon dossier et j'ai eu cette mention de spécialisation. Et là, encore une fois, j'arrive à La Rochelle. Tout le monde fait du pénal, quasiment. Partout, dans n'importe quel barreau, et je vous rejoins tout à fait, parce que en Martinique, pour ne citer que ce barreau-là, on oblige les confrères dès qu'ils sont inscrits à faire de la garde, donc la permanence pénale. Sans leur assurer, en tout cas à l'époque, sans leur assurer une formation. Ce qui est dangereux. Et donc je me suis dit, si moi j'arrive, venant de région parisienne, dans un barreau comme celui de La Rochelle ou Rochefort, en disant je fais du pénal, je ne vais pas forcément pouvoir me démarquer de mes confrères. Encore une fois, je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, mais avoir ce certificat de spécialisation permet de me démarquer.